En Galates, chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 11. « Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. » En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. On va se courir dans un mot de prière. Oui, Seigneur, viens m'apprendre à t'aimer. Parce que c'est en toi qu'est la vie. En toi qu'est le bonheur, la félicité, la joie pour l'éternité. Seigneur, lorsque j'entendais ce chant tout à l'heure, ce qui montait dans mon cœur, c'était « J'ai hâte que tu reviennes pour t'aimer parfaitement, comme tu es digne que je t'aime. » Seigneur, trop souvent, je vois dans mon cœur des désirs qui ne me poussent pas vers toi, mais qui m'éloignent de toi. Tu es digne, Seigneur, à cause de ta grâce envers moi, de recevoir ma vie comme une offrande d'adoration pour toi. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Je ne veux pas le faire par hypocrisie, Seigneur. Je veux le faire parce que je t'aime réellement, parce que tu as déposé en toi ton esprit, en moi ton esprit, pour que je puisse t'aimer. Seigneur, à travers ce passage, on veut encore une fois se rappeler ce que tu as fait pour nous, ton évangile, afin qu'on puisse apprendre à t'aimer, Seigneur. Qu'on puisse, comme Église, vivre pleinement l'Évangile et qu'on puisse t'honorer par nos vies. Qu'on ne soit pas des hypocrites, Seigneur, mais que nos vies tout entières soient consacrées à toi, à vivre pour ta gloire. Et si on arrive à le faire, Seigneur, c'est seulement par toi, par ta force que tu places en nous pour qu'on puisse vivre pour toi. Merci, Seigneur, pour ce passage. Bénis-nous ensemble ce matin, mets ta main sur mes lèvres afin qu'on puisse, que mes auditeurs puissent bien saisir ce que ce passage a à nous enseigner et que ce qui sort de ma bouche vienne de toi, Seigneur, que ce soit ta parole et non la mienne. C'est dans le nom précieux de Jésus que je me confie, que je te prie. Amen. Dans un livre intitulé « Essential Church », L'Église essentielle, si je pourrais traduire librement. Tom et Sam Rainer ont publié les résultats d'un sondage qui avait été tenu auprès de jeunes Américains qui avaient grandi dans des familles chrétiennes et qui avaient fréquenté l'Église pendant leur enfance. Près de 1000 jeunes ont été interrogés pour savoir s'ils ont continué d'aller à l'Église ou s'ils ont abandonné l'Église et d'en connaître les raisons, les raisons de leur choix. Ce sondage a révélé que près de 70 % des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes et qui fréquentaient régulièrement l'Église pendant leur enfance ont abandonné l'Église entre l'âge de 18 et 22 ans. Sur les jeunes qui ont été interrogés, seulement 30 % ont pris la décision de demeurer attachés à l'Église. C'est énorme. 70 % des jeunes américains qui grandissent dans les églises vont abandonner l'Église entre l'âge de 18 et 22 ans. Et je suis convaincu qu'on ferait un sondage ici au Québec, les statistiques seraient quand même semblables. Dans le top 5 des raisons évoquées pour expliquer leur abandon de l'Église, on retrouve celle-ci. Numéro 5, je suis déménagé trop loin de l'Église pour continuer d'y aller. Numéro 4, les responsabilités reliées à mon emploi m'ont empêché d'aller à l'Église. Numéro 3, je suis déménagé pour aller à l'université, puis j'ai arrêté d'aller à l'Église. Numéro 2, les membres des Églises portent trop de jugements et sont hypocrites. Numéro 1, je voulais prendre une pause de l'Église. Le but du livre était en fait d'identifier ce que l'Église peut faire. En écoutant les jeunes puis connaissant les raisons de leur abandon, qu'est-ce que l'Église peut faire pour contribuer à ce que les jeunes demeurent attachés à l'Église? Évidemment, on a beaucoup à apprendre de ça, de ce sondage puis des raisons qui ont poussé les jeunes à abandonner l'Église. Certaines raisons concernent les jeunes eux-mêmes, leurs décisions personnelles, mais d'autres raisons évoquées nous poussent à réfléchir. Et si vous avez remarqué, la deuxième raison évoquée est que les chrétiens portent des jugements et sont hypocrites. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas juste des jeunes qui pensent ça. Plusieurs dans notre société, parfois, lorsqu'on partage l'Évangile, vont évoquer cette raison-là. Moi, ça ne me donne rien d'aller à l'Église, c'est juste une gang d'hypocrites. Pour plusieurs jeunes, je suis convaincu, et aussi pour les moins jeunes, une des raisons qui évoquerait pourquoi ils ne veulent pas entrer dans l'Église ou entendre parler de l'Évangile même, c'est à cause du légalisme et l'hypocrisie dans l'Église. Il y a donc ici quand même un appel à s'examiner comme Église et comme individu pour savoir si on a cette tendance à mettre un standard trop élevé à la vie chrétienne pour nos enfants, pour nos jeunes. Un standard qui est parfois un peu trop élevé pour nous-mêmes, qu'on n'est même pas capable de respecter nous-mêmes et qui fait que nos jeunes sont découragés. Pour eux, souvent, la vie chrétienne, c'est une liste de « fais ci et ne fais pas ça » que même ceux qui leur enseignent ne sont même pas capables de respecter. Je suis le premier. Je peux dire que j'enseigne des choses à mes enfants. Puis le premier à manquer à ces choses-là, c'est moi. Et les enfants regardent, moi, mais le parent. Les jeunes regardent les frères et sœurs dans l'Église. Ils disent tous, fais pas ça et fais ça, mais ils ne sont même pas capables de respecter eux-mêmes. Et là, de là découle leur raison de nous trouver hypocrites. Mais est-ce que c'est vraiment une telle compréhension de la vie chrétienne qu'on veut laisser à nos enfants, à nos frères et sœurs dans la foi? Une compréhension qui est une liste de « fais ci, fais pas ça », des légalistes hypocrites incapables de suivre eux-mêmes leurs propres lois. Ce qu'on constate dans le passage de ce matin, c'est qu'il n'y a pas juste les chrétiens du 21e siècle qui sont hypocrites. C'est réconfortant même de savoir que l'apôtre Pierre, à certains moments, a vécu de l'hypocrisie. Dans son épître, Paul va adresser une situation. Mais heureusement que l'apôtre Paul est là pour ramener l'apôtre Pierre et dire la façon dont tu es en train d'agir hypocritement, puis il le ramène. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on apprend? Des leçons pour nos vies. Pour qu'on arrête de mettre les standards trop élevés, de vivre hypocritement peut-être parfois, et de savoir comment je peux vivre librement, pleinement l'Évangile. Comment est-ce que je peux marcher droit selon la vérité de l'Évangile? Et c'est ce qu'on apprend dans ce passage, c'est que vivre pleinement la vérité de l'Évangile va nous libérer de l'hypocrisie et du fardeau du légalisme. Si nous voulons, comme croyants, laisser un héritage heureux aux gens qui nous entourent, à nos enfants, on doit vivre pleinement la vérité de l'Évangile. Et dans ce passage, on voit trois étapes importantes si nous voulons vivre pleinement l'Évangile. Premièrement, on doit renoncer à l'hypocrisie. On doit rechercher notre approbation en Jésus-Christ seul. Et troisièmement, nous devons laisser Christ vivre en nous. Et on commence avec ce premier point. Pour vivre pleinement l'Évangile, on doit renoncer à l'hypocrisie. Et on va essayer de regarder ensemble un peu plus en détail quel événement Paul nous rapporte dans les versets 11 à 14 lorsqu'il va reprendre Pierre, qui était répréhensible et qui ne vivait pas droitement selon la vérité de l'Évangile. Et en fait, ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il est en train de poursuivre son argument en la défense de l'Évangile pour montrer que du légalisme, on peut le trouver pas juste chez les Juifs qui cherchent à judaïser, mais parfois même chez des croyants qui ont des convictions profondes et qui vont vivre, qui ne vivront pas droitement selon la vérité de l'Évangile. Et Paul est en train de faire comme point ici que même si un apôtre peut agir avec du légalisme, moi je veux affirmer la vérité de l'Évangile et reprendre ceux qui vivent hypocritement et dans le légalisme. Parce que l'Évangile nous libère. Il y a un seul vrai Évangile et cet Évangile-là nous libère et nous rend juste devant Dieu. Et on voit par là, à travers ce passage, que le légalisme va engendrer la crainte des hommes. Les Juifs n'avaient pas le droit de manger avec les païens. C'était des lois qui s'étaient données, des règles plus strictes qui s'étaient données. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné des lois au peuple juif dans l'Ancien Testament concernant les repas, concernant ce qu'ils pouvaient manger et ce qu'ils ne pouvaient pas manger. Il y avait des animaux purs et des animaux impurs. Les animaux purs, tu peux le manger. L'animal impur, tu ne peux pas le manger. Et de là, les Juifs avaient des restrictions concernant les repas et devaient observer les règles que Dieu avait données, ce qui était bien. Et par contre, les païens, eux, de leur côté, n'observaient pas ces règles-là. Puis manger avec des païens résultait dans le fait de s'associer avec des impuretés. Donc, je vais mettre une règle. Je ne mangerai pas avec des païens. Comme ça, je suis certain que je ne toucherai à rien d'impur. Parce qu'eux autres, ils mangent des impuretés. Donc, je ne m'associerai pas avec eux. Je vais manger juste avec des Juifs qui, eux, observent la loi. Comme ça, je vais être certain de ne pas toucher à des impuretés. Mais là, dans le Nouveau Testament, il y a une nouvelle réalité qui arrive. Les Juifs et les païens commencent à pouvoir partager la même table ensemble. Vous vous souvenez de la vision que Pierre a eue, entre autres, dans Actes 10, lorsque le Seigneur l'appelle à aller vers Corneille. La vision, c'est des animaux purs et impurs qui descendent du ciel dans une nappe. Pierre voit ça, puis le Seigneur dit « Tue et mange ». Pierre, « J'ai jamais touché à rien d'impur, Seigneur, je ne ferai pas ça. Et ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est que les païens, qui étaient pour toi des impurs, maintenant ils ont accès à l'Évangile et peuvent devenir purs. Alors, vous pouvez être ensemble maintenant. À cause de l'œuvre de Christ, il n'y a plus de barrière maintenant entre le juif et le non-juif. Maintenant, en Christ, Dieu le purifie. Dieu purifie nos cœurs et on peut être ensemble. Et à cause de l'œuvre de Christ, maintenant, les juifs et les païens pouvaient manger ensemble. Mais il y avait certains juifs, chrétiens, plus légalistes, qui imposaient encore l'observation de la loi et qui disaient, ou des règles, si je peux dire, et qui disaient, mange, si tu es un chrétien, tu ne devrais pas manger avec des chrétiens païens, parce que les chrétiens païens, eux, n'observent pas notre loi. Ils observent, ils mangent n'importe quoi, donc. Chrétiens juifs mangent d'un côté, chrétiens païens d'un autre. Et le problème là-dedans, c'est que c'est un certain légalisme, en fait, qui est en train de s'imposer. C'est que Dieu a enlevé cette barrière de pureté, impureté en Jésus-Christ. Et on est en train d'ajouter des lois qui font que juifs, chrétiens juifs et chrétiens païens sont séparés. Et là, les chrétiens juifs, chrétiens un peu plus conservateurs, regardaient les juifs chrétiens qui mangeaient avec des païens, puis, oh, ils sont en train de pécher, eux, parce qu'ils mangent avec des païens. Et le problème avec ça, c'est que Le légalisme s'impose et on voit à travers ça qu'il amène, par crainte des hommes, à ne pas agir selon nos convictions. Le légalisme, par crainte des hommes, nous amène à ne pas vivre selon nos convictions. Quelles étaient les convictions de Pierre? Dans le passage, on voit qu'au début, avant l'arrivée des Juifs, de d'autres Juifs, Pierre était très à l'aise de manger avec des païens. Mais là, des plus conservateurs arrivent, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'esquive, il s'éloigne, et fait semblant que je ne mange pas avec eux, finalement. Toi, tu es plus conservateur, tu suis la loi, on va se tenir ensemble. Tu t'en vas, je vais manger avec eux. Et c'est ça, des chrétiens légalistes arrivent, et Pierre n'agit plus selon ses convictions. Qu'est-ce qui était? Puis, à travers ça, pourquoi Paul va dire, verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, Paul va dire, « Pierre, tu ne marches pas selon la vérité de l'Évangile en agissant comme ça. Tu amènes d'autres en plus à vivre dans l'hypocrisie et à vivre le légalisme. » Mais pourquoi il ne marche pas droit selon la vérité de l'Évangile? Parce que Pierre était en fait en train de dire aux chrétiens païens, « Vous êtes nos frères et sœurs, mais il vous manque quelque chose pour qu'on soit entièrement à l'aise de communier avec vous. Vous avez été purifiés en Jésus-Christ, je crois ça, vous avez été sauvés par Jésus, mais vous n'observez pas cette loi-là, et donc, je ne peux pas me tenir avec vous. Il vous manque quelque chose. Si je veux m'associer avec vous, il faudrait que vous observiez aussi la loi. Et de cette façon-là, Pierre est en train de dire, Jésus plus la loi, t'es correct. C'est pas juste Jésus, mais c'est Jésus plus la loi qui fait que t'es juste, que t'es correct. Et donc, l'évangile que vous avez cru, mes chers amis païens d'Antioche, n'est pas suffisant, car vous devriez observer les mêmes lois que nous. Et Paul va dire à Pierre, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, si toi qui es juif, tu manges avec des païens, dans le fond, tu agis hypocritement. Là, les juifs arrivent, tu te retires. Si toi qui es juif, tu manges avec des païens, pourquoi tu obliges les païens à judaïser? C'est pas nécessaire. Tu ajoutes des lois inutiles. Et le problème, c'est que quand on impose des lois à nos frères et sœurs, on les amène peut-être à ne plus vivre pleinement selon leurs convictions. Le légalisme nous amène à ne plus vivre selon nos convictions. Si je suis un frère dans le Seigneur qui applique une loi particulière, je vais donner un exemple. Je vais y aller avec fréquenter des bars. Un chrétien ne doit pas fréquenter de bar. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un bar, tu peux être influencé. Puis quand tu es influencé, tu peux boire, puis tu peux entrer, tu peux un peu trop boire. Puis quand tu bois trop, ben là, tu pêches. Fait qu'un chrétien ne va pas dans les bars. C'est ta décision personnelle. Peut-être que c'est correct. C'est sage, peut-être, pour toi. Si l'alcool a été une pierre d'achoppement pour toi dans le passé, va pas là. Mais le problème, c'est quand tu prends cette loi-là, puis tu dis « tous les chrétiens » ne devrait pas aller dans les bars. Et là, tu vois ton frère chrétien qui, après une journée de travail, un petit 5 à 7, décide, je vais aller avec mes collègues de travail, je vais aller avec eux au bar, puis je vais en profiter pour développer des relations, puis partager l'Évangile, peut-être. Et là, tu vois ton frère sortir du bar, puis tu dis, « Hey, je ne devrais pas me tenir avec toi, toi, tu vas dans les bars. » C'est exactement ça que Pierre est en train de faire. Imposer sa propre loi à d'autres. Et donc, lorsqu'on impose nos propres lois à d'autres frères et sœurs dans l'Église, qu'est-ce que ça fait? Ça les amène à vivre dans la crainte des hommes. Je vais être certain que je vais y aller au bar. Je crois que je peux y aller parce que je ne me saoulerai pas, je ne boirai pas trop. Mais je vais checker avant si je n'ai pas mon frère qui est dans le coin, là, parce que s'il est là, moi, je n'irai pas. C'est un peu ça. C'est un peu ça que Pierre est en train de faire. Oh, les Juifs plus conservateurs sont là. J'y vais pas. Ah, oh, ils sont partis. OK, on y va. Gang d'hypocrites. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'agir avec hypocrisie, pas selon ses convictions. Si c'est ta conviction qu'il n'y a rien de mal d'aller dans un bar puis que ça t'amène pas à pécher puis de partager, ça t'amène à partager l'Évangile avec d'autres collègues de travail, Vas-y. Partage-leur l'Évangile. C'est autour d'une bière qu'ils se rencontrent et que vous pouvez avoir des conversations qui n'est pas juste du travail. Allez-y. Mais si c'est une bière d'achoppement, sois prudent. Amène un autre frère avec toi. Amène des chrétiens, un autre chrétien infirmier avec toi. Je ne veux pas dire allez, sortez toutes dans les bars. Je veux être sensible à ceux. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si c'est un moyen pour toi d'entrer en contact avec des non-croyants, puis que ce n'est pas une bière d'achoppement, pourquoi on ferait une loi de ça? C'est juste un exemple. Un exemple que j'aurais pu donner plein d'autres. Mais c'est ça le problème, c'est que le légalisme nous amène à vivre dans la crainte des hommes. Et la crainte des hommes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on vit dans l'hypocrisie. Lorsque je crains mon frère qui a une loi plus stricte que la mienne, puis là que ça m'amène à ne pas agir selon mes convictions, je suis un hypocrite. Et lorsqu'on impose nos lois, on impose une certaine crainte à nos frères et sœurs et on les amène à vivre dans l'hypocrisie. C'est ce qui s'est passé avec Pierre, craignant les Juifs, a agi avec hypocrisie, puis il en a entraîné même d'autres. Et l'hypocrisie, ça vient d'un mot grec, quasiment hypocrisie, là, hypocrisis, qui veut dire porter un masque. C'est un mot utilisé dans le langage théâtral. Porter un masque, jouer une comédie. Et lorsque je suis hypocrite, je suis en train de prendre un autre personnage qui n'est pas selon mes. qui n'a pas les mêmes convictions que moi, puis je joue ce personnage-là. C'est un peu ça l'hypocrisie. Et l'hypocrisie nous amène à porter un masque, à ne pas agir réellement selon nos convictions. Puis ça va se manifester parfois par des péchés cachés qu'on ne confesse pas au Seigneur. Des fois, je peux porter un masque. J'arrive le dimanche matin. Ça va bien. Je suis un bon chrétien. Mais j'ai passé tout le trajet à me chicaner avec ma femme en m'en venant. Quand j'arrive à l'église, ça va bien. Bonjour, bonjour mon frère, ça va? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Puis ça n'allait pas bien du tout. Combien de fois ça m'est arrivé? Ma femme en est témoin. Un péché, on n'agit pas. Ben, en fait, je souhaitais, en fait, ne pas être hypocrite dans ce cas-là, ça serait quoi? Ça? Écoute, il y a des choses à régler, mon ami, finalement. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça pourrait aller mieux. Disons la vérité. Agissons pas avec hypocrisie. Dans ce cas-ci, c'est vraiment de s'empêcher. Dans le cas ici, ce n'est pas l'idée d'un péché qui n'est pas confessé. C'est vraiment l'idée de s'empêcher de faire ce qu'on pense qu'il est bien de faire en raison de la crainte des hommes. Et on peut être souvent tenté devant certains frères et sœurs de ne pas vivre pleinement selon nos convictions par crainte de ce qu'ils pourraient penser de nous. Lorsqu'on porte un masque, lorsqu'on n'agit pas pleinement selon nos convictions, on agit avec hypocrisie. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que la vérité de l'Évangile nous libère du légalisme puis de l'hypocrisie. L'Évangile de Jésus-Christ nous libère de toutes les lois qu'on pourrait s'imposer parce que puis de la crainte des hommes, puis de l'hypocrisie qui pourrait en découler. Parce qu'en réalité, l'Évangile est en train de me dire, tu ne devrais pas avoir à craindre les hommes, tu devrais plutôt craindre Dieu. Et plutôt que de craindre les hommes pour chercher leur approbation, tu devrais craindre Dieu et chercher l'approbation de Dieu. Puis comment on peut vivre pleinement cet Évangile-là? C'est en reconnaissant justement qu'ultimement, ce qui est important, c'est pas ce que les hommes m'approuvent, mais que Dieu m'approuve. Ne pas avoir la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Puis pour ça, on doit vivre pleinement l'Évangile. Et pour vivre pleinement l'Évangile, on doit rechercher notre approbation devant Dieu en Jésus-Christ seul. Versets 15 et 16. Paul va dire, « Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, les Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dieu ne nous approuve pas sur la base de qui on est, de qui nous sommes ou de ce qu'on fait. Dieu n'approuve pas quelqu'un et ne lui donne pas la vie éternelle sur la base de qui il est. C'est pas à cause qu'il est un Juif qui a la vie éternelle. C'est pas à cause qu'il a observé toute la loi qu'il peut être sauvé. c'est en Jésus-Christ seul. Et ça, ça enlève toutes les barrières. Dieu ne nous approuve pas sur la base de qui nous sommes, ni de ce que nous faisons. Les Juifs avaient un privilège spécial. Ils étaient le peuple de Dieu que Dieu a choisi pour révéler sa grâce, pour révéler son amour. Dieu avait un plan rédempteur, puis il a choisi le peuple juif pour révéler ce plan rédempteur-là, qui est venu ultimement en Jésus-Christ et qui a été offert à toutes les nations. Mais les païens non-juifs, ils n'avaient pas la même grâce d'être le peuple choisi de Dieu. Mais devant Dieu, en Jésus-Christ, maintenant que tout est accompli, il n'y a aucune distinction entre le juif et le non-juif. Paul va dire dans Romains 3, 22 et 23, « Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut être justifié autrement que par Jésus-Christ, parce que tous sont pécheurs. Et ce n'est pas l'observation de la loi qui va faire de moi une personne juste devant Dieu. Ce n'est pas l'observation de la loi qui fait ça, c'est Jésus-Christ seul. » Devant Dieu, tous les hommes sont pécheurs. Toute la gang, c'est toute une gang d'hypocrites finalement. Toutes des pécheurs. Tous les hommes naissent avec le même statut devant Dieu. Des pécheurs condamnés par la loi de Dieu qui ont besoin d'être sauvés. Juifs et non-juifs, vous tous qui êtes ici ce matin, vous êtes des pécheurs devant Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et même David va dire, dans le psaume 143, lui qui était juif, psaume 143, verset 2, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. » N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. Si personne ne peut être trouvé juste devant Dieu, ça veut dire que ce n'est pas sur la base de qui nous sommes ou de ce qu'on fait, qu'on va être approuvé par Dieu. Parce que Jésus-Christ est le seul qui nous rend juste devant Dieu. Jésus est le seul qui peut nous purifier de nos péchés, nous laver de nos péchés. Ce n'est pas l'observation de la loi qui fait que je suis juste, c'est Jésus-Christ seul. Nous sommes rendus justes devant Dieu à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Paul va répéter trois fois l'expression dans le verset 16. Pour marquer le point, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Trois fois l'expression « les œuvres de la loi ». Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Et un peu plus loin, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Finalement, le point de Paul ici, c'est pas à cause que tu es une bonne personne que tu vas être juste devant Dieu. C'est pas à cause que tu as aimé ton prochain. C'est pas à cause que tu as essayé d'aimer Dieu de tout ton cœur. C'est pas à cause que tu as observé toutes les lois, que tu es venu à l'église, que tu as prié, que tu as chanté, que tu as eu du fun, que tu as évangélisé, que tu as conduit quelqu'un au Seigneur. C'est pas sur cette base-là que tu es sauvé. C'est sur la base de ce que Jésus-Christ a accompli et sa foi en lui. Et pourquoi la foi en Jésus-Christ est absolument nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? On n'arrête pas de parler de ça ici. Peut-être que ça fait une couple de semaines, tu viens et tu dis, il n'arrête pas de parler de Jésus, lui. Ou qu'il faut que je place ma foi en Jésus. Bien, il y a une raison pour ça. Parce que si tu ne places pas ta foi en Jésus, tu ne peux pas être approuvé de Dieu. Puis moi, je veux que tu sois approuvé. Je veux que tu trouves ton approbation en Dieu, puis que tu sois sauvé. C'est ça que je veux. Peux-tu le dire plus fort pour que tu comprennes? Non. Je le dis par amour. Je le dis par amour. Parce que je crois réellement que Jésus-Christ a tout accompli pour que je puisse être purifié, lavé de mes péchés, être rendu juste devant Dieu. Cette semaine, je partageais l'Évangile à une dame à Bouffe pour tous. Vous la connaissez peut-être, elle vient souvent, elle nous aide à Bouffe pour tous. Elle a sa religion. Puis elle avait des questions. J'ai passé presque une demi-heure. On donnait des cannes de blé d'Inde, mais finalement, je jasais avec elle. Elle essaye par ses propres forces d'être purifiée et d'enlever le mal en dedans d'elle. Tout est accompli. Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses être entièrement lavé. Ton salut ne repose pas sur tes épaules, il repose sur les épaules de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, elle a dit qu'en sortant, elle a dit, je vais lire l'Évangile. Je vais commencer à lire l'Évangile. Je les ai déjà lus, mais je vais lire un peu plus. Commencez par Jean, puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je veux vous pointer vers Jésus-Christ, parce que Christ a accompli quelque chose de merveilleux pour nous. Il a vaincu le pouvoir accusateur de la loi, puis il m'a donné la liberté. Le rôle de la loi, c'était quoi? C'était de me montrer que j'étais un pécheur puis incapable de suivre la loi. Tu trouves que la vie chrétienne, c'est une liste de fais ci, fais pas ça, puis fais ci, puis tout ça. Je te comprends. Parce que par nature, je ne suis pas capable de tout faire ça. Puis si la vie chrétienne pour toi, ça se résout à une liste de fais ci, fais pas ça, je te comprends que c'est difficile. Je ne suis même pas capable moi-même de tout suivre la loi de Dieu. Impossible. Je ne suis pas capable. Par contre, Christ, lui, a vécu parfaitement la loi. Il a obéi entièrement. Puis il dit, tu sais, si tu veux être juste devant Dieu, c'est impossible parce que la loi te montre que tu es juste un pécheur. Mais Christ, lui, l'a obéi parfaitement. Puis il veut prendre ta place. Il a pris ta place à la croix. Il a vécu une vie humaine parfaite comme la tienne. Pas parfaite, mais il a vécu une vie parfaite. Il a vécu une vie comme la tienne, mais il l'a vécu parfaitement. Hébreux 5, 15. On n'a pas, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus n'a pas commis de péché. J'aurais été incapable de suivre toute la liste de « fais ci, fais pas ça » que je pourrais donner à tout le monde ici à matin. Incapable par moi-même. Christ l'a fait, lui. Il l'a accompli pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? En vivant une vie parfaite, il est arrivé à la croix. Il a dit, il a été condamné. Pas pour ses péchés à lui, mais pour les nôtres. Il a dit, toi là, t'as besoin de moi. T'as besoin de quelqu'un qui a vécu une vie à ta place, parfaitement. Puis t'as besoin que je prenne sur toi toutes tes fautes. 1 Pierre 3,18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il était mort à la croix, lui juste pour des injustes. Christ a pris ta place à la croix pour que toutes les injustices que tu as faites, il puisse les prendre sur ses épaules. Il a été puni là, à la croix, pour que tu puisses recevoir le pardon des péchés. Et maintenant, on appelle ça l'échange de justice. Mon injustice a été transférée sur lui. Il a été puni, mais sa justice parfaite m'est offerte. Pour que par la foi en lui, dans tout ce qu'il a fait pour moi, qui il est, ce qu'il a fait pour moi, je puisse dire, donne-moi ta justice pour que je puisse être juste devant Dieu puis que Dieu m'approuve. Et c'est par la foi qu'on fait ça. On vient à Christ. On dit, je suis injuste. Je suis un pécheur, puis j'arrive, je vois bien qu'avec la loi, je ne serai jamais capable de tout suivre ça. Ta parole me dit que si je pèse juste comme un contre un commandement, je suis coupable de tout. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus, pour que tu me donnes ta justice, que tu me pardonnes de mes péchés, pour que je puisse être approuvé de Dieu. Maintenant, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on est entièrement approuvé de Dieu à cause de Christ. Et on a la liberté maintenant de vivre pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que pour vivre pleinement l'Évangile, sans le fardeau du légalisme et de l'hypocrisie, maintenant, troisième étape, on doit laisser Christ vivre en nous. Versets 19 à 21. « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Christ est mort et nous sommes morts avec lui. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, Paul dit, c'est comme si je reconnais que ma vieille nature, le vieux Alex, a été crucifié avec Christ à la croix, condamné par Dieu. C'est Christ qui a été condamné. Mais à la croix, j'ai été crucifié avec Christ. Christ a pris sur lui mes fautes, mon ancienne nature qui cherchait à être justifiée par mes propres forces. Et on est mort avec lui, sous la loi, c'est-à-dire alors que la loi subsistait encore contre nous. Christ est venu sur la terre, dans Galates 4, versets 4 et 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi. Donc, Christ est né sous la loi pour la vivre parfaitement, pour nous racheter, nous, qui étions sous la loi, mais incapables de l'observer. Mais à la croix, mon injustice a été crucifiée avec Christ. Et ce vieux Alex-là a été crucifié avec Christ. Et par la foi en lui, je suis mort à mon ancienne vie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Christ est ressuscité. Il vit en nous pour la gloire de Dieu. Paul va continuer en disant, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Si on peut vivre maintenant pour la gloire de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ vit en nous par son esprit qu'il nous a donné. Le Seigneur nous a donné son esprit qui fait en sorte que la liste de « fais ci, fais pas ça » que Dieu avait établi, non pas la mienne, mais que Dieu avait établi, je puisse être en mesure de lui obéir. Le plus grand « fais ci », c'est « aime Dieu de tout ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. » Impossible sans Jésus-Christ qui vit en moi. Et j'ai besoin de Christ, par son esprit, qui vit en moi pour pouvoir observer cette loi et glorifier Dieu. Et si on peut vivre maintenant pour la gloire de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ vit en nous par son esprit. Par son esprit, on est libre de faire ce qui nous était incapable de faire avant. Vivre pour la gloire de Dieu. Le fardeau pesant du légalisme et de l'hypocrisie ne sont plus nécessaires. Parce qu'en laissant Christ vivre en moi, je suis libre de vivre pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin d'ajouter des choses parce que Christ a tout accompli. Et lorsqu'il vit en moi, il me rend libre de vivre pour Dieu. Et si je suis capable de vivre continuellement pour Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et on va vivre réellement la liberté avec une foi continuelle en Jésus-Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et peut-être vous dites, moi, vivre pour la gloire de Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas réussi à faire ça. Je suis un chrétien, j'ai abandonné ma vie au Seigneur, mais vivre pour la gloire de Dieu, pour moi, c'est difficile. J'ai de la difficulté, pour moi, je n'ai pas ce désir-là même dans mon cœur, peut-être que vous êtes là présentement, dans votre vie. Vivre pour la gloire de Dieu, ça ne me dit rien puis ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais je suis un chrétien, fait que je pense que c'est quelque chose que je devrais faire. Maintenant, voici comment on doit le vivre. On vit encore dans la chair, avec des désirs parfois contraires à ce que Dieu veut pour nous, à la volonté de Dieu. C'est possible d'être tenté, puis de tomber. C'est pas parce que je suis venu à Christ que je suis maintenant parfait, puis que je tomberai jamais, puis que j'aurai plus de mauvais désirs dans mon cœur. Les mauvais désirs continuent de venir parce que je vis maintenant encore dans la chair. Mais si je vis dans la chair, je vis maintenant comment? Dans la foi en Jésus-Christ. Pas juste le fait qu'il m'a justifié, mais pour continuer de vivre pour Dieu aussi. J'ai besoin de placer ma foi en Jésus-Christ de jour en jour. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. En attendant, on doit renoncer au péché. Ça se peut qu'on soit tenté, qu'on tombe. On doit y renoncer, mais on n'y renonce pas par nos propres forces. On y renonce parce qu'on laisse la place à Christ dans nos vies. On dit, Seigneur Jésus, prends toute la place, puis donne-moi les désirs que toi, tu as de vivre pour la gloire de Dieu. C'est par la foi en Jésus, avec son aide et son appui, qu'on peut vivre pour la gloire de Dieu. Quand on trouve difficile de faire la volonté de Dieu, il faut prendre les bons moyens. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien, rien, rien faire. » Alex, quand tu te lèves le matin et que tu ne te confies pas en Jésus-Christ, tu le fais par toi-même et tu es un incapable. Tu as besoin de te confier en moi si tu veux glorifier Dieu. Alors Jésus dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que je dois faire? Écrase mon ami. Supplie le genou devant Dieu, devant Jésus-Christ, puis dis, Seigneur, je ne suis pas capable. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi. Aide-moi à vivre pour la gloire de Dieu. Tu me dis de porter du fruit, je ne suis pas capable. Aide-moi. Plie le genou. Implore Dieu. Abandonne-lui tes fardeaux. Confesse-les, tes péchés, tes tentations. Dis, Seigneur, ça fait des semaines que je lutte avec tel ou tel péché, puis j'ai de la misère à m'en débarrasser. Dis-le. Dis, Seigneur, viens m'aider. Enlève ce goût-là de moi pour que je désire glorifier Dieu. Là, attends-toi pas à ce que ce soit parfait du jour au lendemain. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Seigneur, te façonne, te transforme. Mais il te change tes désirs pour que tu puisses vivre pour lui. J'ai besoin de cette aide régulièrement. Parce que mon péché à moi, c'est quoi? Je vais vous confesser mes péchés un matin, là. Je focus sur mes objectifs. C'est facile. La journée commence. Réunion à telle heure, rencontre d'une personne à telle heure, faut que je prépare mon sermon, et voilà, porter les enfants à l'école. Tout là, hein, les objectifs dans une journée, on en a. Et pour moi, c'est oublier de demander à Dieu puis de dépendre de lui. Seigneur, j'ai roulé quasiment 3 jours, 4 jours cette semaine, puis j'ai même pas prié une fois avant de partir de la maison. Puis là, je me rends compte, coudonc, c'est cette semaine, justement, vendredi, on avait les funérailles de notre frère, M. Famelard, et puis j'avais pas fini ma préparation pour ce matin, puis là, c'était les objectifs, mon ami, un chant à préparer pour les funérailles, puis là, le sermon, puis après ça, la famille, puis là, je m'arrête, puis je dis, « Hey man, t'as pas prié? » Tu penses faire ça tout seul aujourd'hui, là? Puis là, c'était lourd sur mes épaules. Là, tout d'un coup, il me semble que, hein, Seigneur, c'est vrai, j'ai pas pris le temps. Seigneur, aujourd'hui, je veux vivre pour ta gloire. Fait que tu vas permettre que je fasse ce que je peux faire. Je te le remets, puis permets que ma vie soit un instrument pour ta gloire. Puis, bénis les funérailles, bénis ma préparation, puis je me confie en toi aujourd'hui. C'est bizarre, hein? D'un coup, c'est comme, right, hey, je veux y aller, là. Ça me tentait pas trop. Puis là, oups, tout d'un coup, bang, on y va, là. Parce que j'ai besoin de Christ. J'ai besoin de lui pour vivre pour la gloire de Dieu. Ça fait que si tu trouves que la vie chrétienne est difficile, si tu veux arrêter de vivre hypocritement avec un masque, reviens au pied de la croix. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Place ta foi en lui pour vivre chaque jour, chaque instant pour sa gloire. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. En laissant Christ vivre en nous, on peut réellement vivre librement pour la gloire de Dieu. Maintenant, par l'Évangile, on peut renoncer au légalisme, à l'hypocrisie, parce que Christ nous a libérés du pouvoir de la loi, nous a donné, il vit en nous pour qu'on puisse vivre pour la gloire de Dieu. Christ nous a libérés, nous rend libres de vivre pour Dieu. Et lorsque je vis dans l'hypocrisie ou dans la crainte des hommes plutôt que dans la crainte de Dieu, c'est comme si je rejetais la grâce de Dieu, Paul va dire, verset 21. Mais c'est pas ça que je veux faire, je veux pas rejeter la grâce de Dieu, je veux vivre pleinement l'Évangile, droitement, selon la vérité de l'Évangile. Donc je veux pas rejeter la grâce de Dieu, je vais l'embrasser parce que Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour moi, il s'est livré pour moi, puis maintenant il vit en moi, puis je peux vivre pour Dieu. Toute l'œuvre de Christ, c'était pour me faire passer d'un mauvais, incapable de glorifier Dieu à glorifier Dieu. Maintenant, tout ce que Christ a fait, je le veux parce que je veux vivre pour la gloire de Dieu. Et si la vie chrétienne se résume à des « fais-ci, fais pas ça pour toi », reviens au pied de la croix parce que Jésus a tout accompli pour toi. Il renouvelle en toi le désir de jour en jour pour vivre pour sa gloire. Ça m'arrive souvent d'avoir des attentes envers mes frères et sœurs, mais surtout envers moi-même, par crainte des hommes. C'est pas l'approbation des hommes que je veux, c'est l'approbation de Dieu. Ce que je désire le plus, c'est pas d'être sur la coche pour les hommes, mais d'être sur la coche pour Dieu. Puis pour ça, je dois pas rejeter la grâce de Dieu, mais vivre pleinement l'Évangile. Puis par rapport à vous, je veux rien ajouter de plus que l'Évangile et la grâce de Dieu pour vous. Je veux vous annoncer ce matin que Jésus est mort pour vous, qu'il vous a libéré du fardeau de la loi, puis que vous pouvez vivre pleinement pour la gloire de Dieu. Puis je prie dans le Seigneur que le Seigneur nous enlève ces attitudes de légalisme et d'hypocrisie pour qu'on soit vrais ensemble, vivre droitement la vérité de l'Évangile et unis ensemble pour l'Évangile. En vivant selon la vérité de l'Évangile, je vais être sur la coche aux yeux de Dieu. Non par moi-même, mais à cause de tout ce que Christ a accompli pour moi et continue d'accomplir pour moi. Il faut se confier en lui. On va se courir dans un mot de prière. Seigneur, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Seigneur Jésus, tu n'es pas mort pour rien. Tu m'as donné la vie, la liberté, pour que je puisse vivre pour toi. Seigneur, si parfois j'ai imposé des fardeaux trop pesants à mes frères et sœurs dans l'Église, je veux te demander pardon pour ça. Parce que je veux les pointer vers la croix, vers toi seul, qui peut les sauver, les délivrer. Renouveler en eux un cœur nouveau, leur donner un cœur nouveau pour qu'ils puissent vivre pour ta gloire. Seigneur, ce n'est pas en imposant mes lois que je vais les encourager à vivre pour ta gloire. C'est en parlant de ce que tu as fait pour eux. Seigneur, fais de nous des ministres de ton Évangile qui vivent droitement et pleinement l'Évangile en se sachant sauvés, purifiés, graciés par toi. Seigneur, fais de nous une armée remplie de ton Esprit qui vit pour ta gloire et qui annonce ta grâce autour de nous. Et si quelqu'un a été... Seigneur, est ici ce matin qui n'a pas saisi cette grâce en toi. Je prie que tu puisses ouvrir les yeux de son cœur afin qu'il puisse saisir tout ce que tu as fait pour lui, qu'il puisse saisir la joie de la vie éternelle et de vivre en toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.